Vous parlez tous hébreu, c'est bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Josué Turnil, je suis missionnaire parmi les Juifs, directeur de Juifs pour Jésus. Je suis né dans la Terre Promise, la Terre Sainte, à New York, aux États-Unis. Et Juifs pour Jésus est une mission, une association de Juifs qui ont rencontré leur Messie. Et notre but, notre raison d'être, c'est de poursuivre sans relâche le plan de salut de Dieu pour le peuple juif. Et nous connaissons ce que veut dire salut en hébreu, n'est-ce pas? En hébreu, comment est-ce qu'on dit salut? Yeshua, Jésus, c'est le nom donné sous le ciel, moyen par lequel on peut être sauvé. Il n'y a pas d'autre nom, comme on a chanté tout à l'heure. Le plus beau des noms, c'est le nom de Jésus. Et donc voilà le travail de Juifs pour Jésus qui existe depuis plus de 50 ans dans tous les pays où il y a une population juive très forte. Ces populations juives fortes dans à peu près 7 pays majeurs du monde souffrent de la marginalisation. Du racisme et de l'antisémitisme. Les dernières statistiques montrent que les communautés juives dans ces 7 pays du monde ont vu les chiffres d'antisémitisme exploser, grimper. J'habite à Paris, un peu l'épicentre de l'antisémitisme, et on voit que le peuple juif se sent de plus en plus fragilisé. Pour faire le lien avec Ebenezer, beaucoup de juifs remettent en cause la question de l'Alia. Justement à cause du 7 octobre, il y a beaucoup d'Israéliens qui quittent Israël parce qu'ils ne se sentent plus en sécurité ou ne voient pas vraiment le plan de Dieu pour ce pays et pour ce peuple. La situation est grave et je n'ai pas besoin de vous le dire. Vous avez les actualités, vous avez les réseaux sociaux. Mais malgré cela, je vois beaucoup de bonnes et belles choses. Dans les deux premiers mois de cette année, nous avons vu 300 Israéliens demander un Nouveau Testament. Dans les deux premières années, 300 Israéliens qu'on ne connaissait pas. Alors sachez qu'Israël est un pays où l'Évangile n'est pas connu, n'est pas répandu. On ne peut pas trouver des Nouveaux Testaments. On ne peut pas aller dans une librairie et acheter un Nouveau Testament. On peut acheter dans une librairie israélienne un Coran, un Bhagavad Gita, tout ce qu'il y a sur la méditation et les médiums, mais on ne peut pas acheter un Nouveau Testament, ni le commander. Et pourtant, ces 300 personnes nous ont trouvés, parce qu'ils cherchent Jésus. En Ukraine, nous avons vu que mes collègues en Ukraine, ils sont une vingtaine en Ukraine, à Odessa, à Kiev, ils ont pu témoigner à 7000 personnes juives l'année dernière en Ukraine. Et ils ont baptisé, dans les deux premiers mois de cette année, ils ont baptisé 9 personnes juives. En France, qui est, comme je vous l'ai dit, l'épicentre de la communauté juive en Europe, c'est la plus grande communauté juive de l'Europe qui se trouve en France. Depuis le 7 octobre, on a vu 30 personnes juives donner leur vie à Jésus. 30 personnes, vous en avez vu quelques-uns dans la vidéo. Donc, c'est difficile de vous décrire, je suis missionnaire depuis 30 ans, c'est difficile de vous décrire combien c'est significatif ces résultats pour un peuple qui traditionnellement n'est pas ouvert à Jésus. Moi je suis juif et j'ai grandi dans une culture, une famille, une tradition qui a été conditionnée contre la foi en Jésus. Donc de voir les personnes venir à Christ, de voir le peuple juif un peu partout dans le monde ouvrir le cœur, me rappelle quelque chose que Joseph a dit à ses frères dans une situation de difficulté. Il a dit, vous aviez médité à me faire du mal, mais Dieu l'a retourné en bien pour sauver un peuple nombreux. Et c'est ça ce que nous voyons, Juifs pour Jésus, partout dans le monde. Les cœurs s'ouvrent au salut, les cœurs s'ouvrent à Jésus. Alors si vous voulez savoir plus sur Juifs pour Jésus et prier pour Juifs pour Jésus, il y a une petite carte de contact. Voilà, super. Je sais que plusieurs d'entre vous le reçoivent déjà, la lettre de nouvelles. Si vous ne recevez pas la lettre de prière de Juifs pour Jésus, est-ce que vous pouvez lever la main, s'il vous plaît, si vous ne la recevez pas? Voilà. Alors, voilà, donc, mes amis vont distribuer les cartes. Gardez les mains levées pour qu'ils puissent vous voir. Voilà. Et ils vont vous distribuer les cartes. Et tout comme Géraldine nous l'a dit, nous l'a rappelé, on a besoin vraiment de vos prières. On a vraiment besoin de vos prières parce que le peuple juif se cherche. Le peuple juif a besoin du Seigneur et c'est vraiment la prière qui change des choses. Merci beaucoup les amis. Et gardez la main bien levée pour qu'ils puissent venir vers vous. Peut-être je vous raconte l'histoire d'une femme dans l'une de... Les trois mois suivant le 7 octobre, nous avons vu, dans les trois mois suivant le 7 octobre en Israël, on a vu 600 demandes de Nouveau Testament en Israël, 600 demandes d'Israéliens qui ont demandé le Nouveau Testament. L'une des personnes qui a demandé un Nouveau Testament, c'est une dame âgée d'une famille hongroise survivante de la Shoah. Et elle a entendu parler juif pour Jésus, elle nous a contactés pour un Nouveau Testament. Et il se trouve que ces deux petites filles ont été prises otages à Gaza. Et elle était un peu désarçonnée, comme vous pouvez l'imaginer. Et elle a commencé à étudier la Bible, le Nouveau Testament, avec nous. Et il n'y a plus de cartes. OK, pardon, il n'y a plus de cartes. Il suffit de vous enregistrer sur le site juifpourjesus.org et vous allez pouvoir garder le contact avec nous. Donc cette dame... juive d'une famille survivante de la Shoah, a été interpellée par le Nouveau Testament, triste de ne pas savoir quoi faire avec ses deux petites filles qui ont été prises otages. Et elle a commencé à étudier la Bible avec l'un de nos missionnaires, et quelques mois plus tard, elle a donné sa vie à Jésus. Et cette même semaine où elle a donné sa vie à Jésus, ses deux petites filles ont été libérées de Gaza. Alors je dis libérées physiquement, mais libérer spirituellement, psychologiquement, ça va prendre un peu de temps. Mais on voit de belles choses, on voit des âmes se tourner vers le Seigneur et témoigner à leur tour. Alors ce matin, j'avais pensé amener une méditation sur le psaume 13, que je vous propose de lire ensemble. Un court psaume. Au chef de cœur, psaume de David, « Jusque à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusque à quand me cacheras-tu ta face? Jusque à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour du chagrin dans mon cœur? Jusque à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Regarde, réponds-moi, Éternel mon Dieu, éclaire mes yeux. » Afin que je ne m'endorme pas dans la mort, afin que mon ennemi ne dise pas « je l'ai vaincu » et que mes adversaires ne soient pas dans l'allégresse si je chancelle. Mais moi, j'ai confiance en ta bonté. Mon cœur est dans l'allégresse à cause de ton salut. Je chanterai à l'Éternel, car il m'a fait du bien. » Le Talmud, qui est le commentaire rabbinique de la Bible, dit « Si tu veux vivre, attends-toi à la douleur. » Dans la culture juive, on a un mot qui exprime nos souffrances, on appelle ça « kvetch ». Kvetch veut dire le fait de se plaindre, mais de se plaindre à la juive. Comment est-ce qu'on se plaint à la juive? Je vous raconte une petite histoire. Il y a un jeune homme qui voyage dans un train, un jeune homme juif religieux. Il est à côté d'un antisémite. Et cet antisémite est bien gêné par ce juif religieux parce qu'il balbutie constamment des remerciements à Dieu à chaque fois qu'il se lève, à chaque fois qu'il boit un verre. Il dit « Merci Seigneur pour ceci, merci Seigneur pour cela ». Et le train voyage lentement, la fenêtre est ouverte. Et passe un oiseau et lâche une énorme fiente sur le jeune homme religieux. Dans son col, sous sa kippa, il en a partout. Et l'antisémite à côté de lui est très content. Il lui dit finalement, il va se taire celui-là. Et lui dit, alors tu vas remercier Dieu pour ça aussi? Et le jeune homme commence à réfléchir. Il dit, ah oui, oi, 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 Baruch ata Adonai, merci Seigneur, que les vaches n'ont pas des ailes. Et c'est une manière de se plaindre aussi. Et donc, la plainte est familière pour tout lecteur des psaumes. D'ailleurs, on a toute une catégorie ou un genre de littérature des psaumes qu'on appelle les psaumes du kvetch ou les psaumes de lamentation. Donc, notre psaume est un tel psaume. Pour comprendre les psaumes, il faut comprendre quelque chose du rythme et du rime et du prose et du vers des psaumes. Dans la littérature hébraïque, dans la littérature juive, dans les psaumes, on a quelque chose qui revient souvent dans ces textes, on appelle ça du parallélisme. Et qu'est-ce que c'est que le parallélisme? C'est une phrase qui ressemble à l'autre, qui essaie de décrire un sentiment très fort. On rajoute, on exagère, on se répète. On rajoute, on exagère, on se répète. On en rajoute, on exagère, on se répète. Vous avez compris? C'est le parallélisme hébraïque, l'expression même du kvetch, de la lamentation. C'est par un peu comme pour les musiciens entre vous, quand vous allez accorder une guitare, il faut désaccorder un peu les cordes pour pouvoir trouver la bonne note. Et pareil, dans le parallélisme hébreu, il y a le parallélisme qui se ressemble, les vers se ressemblent l'un à l'autre, et d'autres qui ne se ressemblent pas, mais par le comparatif, on arrive à comprendre le vrai sentiment de la personne. Par exemple, il y a une différence entre quelqu'un qui est aveugle, né, et quelqu'un qui l'est devenu plus tard. On est d'accord? Il y a une différence entre quelqu'un qui est aveugle, né, et quelqu'un qui est né sans yeux. Il y a une différence entre quelqu'un qui est né sans yeux et qui est dans une pièce obscure, sans issue et sans lumière. Vous voyez, c'est ça un peu le parallélisme hébraïque. Par des degrés, on arrive à comprendre le fond de la souffrance et de l'abîme dans lequel on est. Et voilà notre psaume, le psaume 13. Un psaume qui devrait déjà attirer notre attention parce que c'est écrit au chef des chantres, psaume de David. Tout de suite, ça doit attirer notre attention. Ce n'est pas juste un psaume dirigé au chef de chœur, comme c'est souvent le cas, le premier concerné, pour préparer bien sûr les chœurs. Sachez que les psaumes sont un peu l'hymnaire, le j'aime d'Israël dans l'Antiquité, le j'aime l'Éternel. Mais ceci est profond, ceci est sérieux, dédié aux plus grandes instances du pays, au roi David. Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Alors, je ne suis pas francophone de naissance, et quand j'ai commencé à apprendre le français, l'un des livres que j'ai lus, c'est « Huis clos » de Jean-Paul Sartre. Vous vous souvenez de ce passage célèbre, peut-être à l'école vous l'avez étudié aussi. Et il y a des personnes qui sont dans une pièce à huis clos, il n'y a pas d'internet, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas d'issue, ils ne savent pas pourquoi ils y sont et ils ont des conversations très drôles des fois, parfois des conversations pénibles, ils réalisent qu'ils ne vont jamais quitter cette pièce. Et ça devient lourd, pénible, et il arrive avec ce dicton qui résume un peu ces relations entre êtres humains en disant la célèbre phrase, peut-être que vous la connaissez, « L'enfer, c'est les autres ». Pourquoi? Parce que je crois que quand on est confronté à soi-même et quand nous atteignons la fin de qui nous sommes, nous réalisons une réalité que non, l'homme n'est pas le centre. Oui, la raison a ses limites. Nous nous rendons compte que dans ce lieu à huis clos, que nous sommes pourris jusqu'à la moelle, et bien sûr, l'enfer, c'est soi, l'enfer, c'est les autres. Mais ça n'a pas commencé comme ça, n'est-ce pas? Nous avons tous été créés à l'image de Dieu. Nous avons commencé parfait, et le péché et le fait de croire que nous sommes le centre et l'origine a gâté notre image à telle façon qu'aujourd'hui il nous est difficile des fois de nous imaginer comme ayant été créés à l'image de Dieu. encore plus difficile de penser qu'on peut refléter sa gloire, raison pour laquelle nous étions créés. La souffrance, chers amis, remémore, remue tout cela. Ici, l'auteur du psaume semble se débattre et est aussi lui-même confronté à lui-même, à la solitude, à sa propre mesquinerie et à celle de la situation. Pour le dire de la façon biblique, nous sommes tous pécheurs. Maintenant, rajoutons la souffrance à cette réalité. Dis donc, c'est dur. Vous savez quelle est la pire des choses à faire à quelqu'un qui est suicidaire? Tous les centres, les spécialistes, les psychologues vont vous dire la même chose. C'est de laisser seul. C'est la pire des choses à faire. Il ne faut jamais laisser seul quelqu'un qui est suicidaire. Parce que quand vous souffrez et vous êtes au bout de vous-même, vous êtes si éloigné de l'image de Dieu que Dieu a créé que vous ne pouvez que percevoir le dilemme de Sartre. L'enfer, c'est les autres. L'enfer, c'est moi. Et la seule sortie de l'enfer, bien sûr, c'est la mort. Est-ce que vous êtes content que j'ai commencé avec une blague? Ça va aller mieux, ne vous inquiétez pas. En fait, non, ça va devenir pire avant d'aller mieux, mais voilà, on va y arriver ensemble. Mais laissez-moi vous laisser avec un petit aperçu de la fin. Le psaume a dit, 139, « Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. » Voyez-vous, on ne peut pas fuir loin de sa présence. Il sera toujours là pour nous, un peu comme Forrest Gump, pour ceux qui ont mon âge, qui attend toujours Jenny, péniblement, peu importe combien de temps, il l'attend, l'aime presque bêtement. Dieu est comme Forrest Gump. Le parallélisme de ce psaume continue dans la deuxième partie du verset. « Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi ?» Une grande partie de nos souffrances vient de l'autre, vient des autres, n'est-ce pas? Que faisons-nous de cette souffrance quand les autres nous blessent? Certains, on a deux choix essentiellement, soit on le garde pour soi, on la refoule, on la cache, on la repousse au tréfonds de notre être, et d'autre manière, c'est de s'en débarrasser en parlant. À qui est-ce qu'on va parler? On peut parler au thérapeute, et des fois dépenser des milliers de francs. Mais souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on parle aux autres, n'est-ce pas? De la souffrance que les autres nous disent. En faisant ce kvetch, cette plainte, cette lamentation aux autres, en disant du mal. En hébreu, on appelle ça la shon hara, la mauvaise langue, le médire. Un jour, un rabbin est venu, a été quelqu'un à parler mal de son rabbin à une autre synagogue. Et cette personne juive de cette communauté, est revenue vers le rabbin parce qu'il voulait être réconcilié avec lui. Et le rabbin a dit, d'accord, j'accepte. Toutefois, il faut faire quelque chose pour moi. Prends un oreiller, un couteau, va dans une falaise et il faut déchiqueter l'oreiller et laisser toutes les plumes aller dans le vent, s'en aller dans le vent. Cette personne est allée, a fait comme le rabbin lui a dit, revenu vers le rabbin a dit, alors maintenant, allez ramasser toutes les plumes. Il dit, c'est impossible. Mais ces plumes sont comme ces paroles mauvaises dites au sujet de l'autre, dont les conséquences sont graves, impossibles quasiment de défaire. C'est l'élément le plus destructeur dans n'importe quelle communauté. Et c'est fatal à l'Église. Et elle est dans chaque Église. Elle est dans cette Église. Nous parlons aux autres, au sujet des autres. Et c'est exactement comme si on jetait l'huile sur le feu. Qu'est-ce que Jésus a dit de ça. Il a dit en Matthieu 18, « Si tu as quelque chose contre ton frère, parle-en à ton meilleur ami. » Ah non, pardon, c'est pas ça. Attends. Non. Dans le grec, c'est écrit, « Si tu as quelque chose contre ton frère, parle-en à ton épouse. » Non, c'est pas ça, je ne sais pas. Je suis vieux, je suis fatigué, j'oublie en fait les textes. Je suis sûr que dans l'original, c'est écrit, « Si tu as quelque chose contre ton frère, dis-le à tout le monde, sauf à ton frère. » C'est pas ça, hein. C'est comme si Dieu dit, « Va voir ton frère, même avant de parler à Dieu. » C'est comme si Dieu lui-même ne veut pas entendre. Il veut juste qu'on puisse se réconcilier et venir à l'autel ensemble. Ensuite, il y a ceux qui gardent la souffrance pour eux, à l'intérieur d'eux-mêmes. La cache à l'intérieur, on le refoule où personne ne peut la voir et deviner les vrais sentiments qui nous habitent, l'horreur à l'intérieur. Est-ce culturel, parce qu'on est des gens bien, ou est-ce politiquement correct, ou un simple malentendu que Dieu aime des gens bien. Et que pour être chrétien, il faut être une personne bien religieuse, bien disciplinée. Dieu sauve ceux qui sont bons et gentils, n'est-ce pas? Bien sûr, nous sommes sauvés par la grâce, comme nous avons chanté tout à l'heure, et non par les œuvres. Mais, cependant, ce modèle de chrétien pieux semble se répandre dans nos églises au point que nous oublions la conclusion de Sartre et la leçon profondément biblique. Nous sommes pécheurs. Ou comme l'a dit un co-religionnaire à moi, Billy Joel, a dit « L'honnêteté est un mot si solitaire. Les psaumes sont si exacts à ce sujet. Les psaumes sont brutalement honnêtes. Les psaumes sont l'exemple non seulement de la louange, mais de la prière. Le psalmiste ne jette pas de l'huile sur le feu en parlant aux autres. Le psalmiste ne garde pas les sentiments pour soi et les psaumes ne sont pas remplis de sentiments pieux et de paroles chrétiennes. » Eh bien non, les psaumes reflètent cette vérité. Nous sommes pécheurs. Voici quelques exemples. « Maudit soit le jour où je suis né, que le jour où ma mère m'a enfanté ne soit pas béni. Et moi, je suis un ver et non un homme, l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. Fille de Babylone, la dévastée, heureux qui te rend l'appareil, le mal que tu nous as fait, heureux qui saisit tes enfants et les écrase sur le roc. » Le psalmiste est brutalement honnête avec lui-même et avec Dieu. En fait, il y a une très belle expression dans les Écritures, « J'ai répandu mon âme devant l'Éternel. » J'ai répandu mon âme devant l'Éternel. Si vous avez fait cette expérience, si vous avez vraiment répandu votre âme devant l'Éternel, le résultat n'est pas joli. À quand remonte la dernière fois que vous étiez parfaitement honnête avec vous-même et avec Jésus? La fois où vous n'avez rien caché. C'est la leçon que nous donne le sacrifice. Les sacrifices devaient être offerts crus. On ne rajoute pas de sucre, surtout pas cuisiné, surtout pas préparé d'avance. C'était un spectacle, une boucherie sanglante, bruyante, qui reflétait le péché, qui était le symbole et le symbole visuel de la réalité de notre spiritualité. Là, on vient de fêter Pâques et on va vers Pentecôte. À Pâques, on enlève tout le levain de la maison, symbole du péché qu'on veut évincer de la maison, de briser le cycle quotidien du péché. On mange des pains azim, des pains non levés pour rappeler qu'on doit vivre des vies saintes devant Dieu. Et pourtant, 50 jours plus tard, à la Pentecôte, on doit amener devant l'autel des belles miches de pain levé pour signifier qu'on est pécheur, que le péché est dans la vie et que Dieu veut qu'on amène nos péchés à l'autel. amène nos ennemis à l'autel, amène la réalité de notre cœur à l'autel pour, dans sa présence, en être transformé. Encore une fois, Dieu veut que nous venions à lui tel que nous sommes, en agitant et en répandant devant lui en tant que pécheurs, mais des pécheurs repentants. D'ailleurs, on devait prendre les miches de pain devant l'autel et le montrer comme ça devant l'Éternel et devant tout le monde pour dire « Je viens, Seigneur, à toi avec les miettes de péché dans ma vie. » Prenez vos ennemis, prenez les gens qui vous blessent et amenez-les devant le Seigneur. Les paroles ici de ce psaume suggèrent une rencontre intéressante entre le roi Saül et le roi David. Sachez que des fois, peut-être la pire des choses, en tout cas ce que moi j'ai expérimenté, c'est les conflits familiaux. Ça, c'est le plus dur. Aussi, plus dur, c'est le conflit dans l'église, c'est un peu comme la famille. Et donc, c'est le beau-père de David qui le persécute. Ça, c'est terrible. Je ne peux pas imaginer dans quel état était-il. Mais le langage dans ce psaume, on pense que peut-être David a écrit ce psaume soit quand il fuyait devant Saül, soit quand son propre fils le persécutait. En tout cas, le thème, c'est le même. Conflit familial. Il y a une rencontre entre David et Saül. David a l'occasion d'en finir une fois pour toutes avec Saül. Il y a des hommes autour de lui, de David, qui disent c'est ton occasion de te venger, d'en finir avec lui, d'arrêter cette fuite, cette persécution. Et David dit non. Et il s'est retenu parce qu'il a dit c'est loin de l'Éternel et que le Seigneur s'en chargera. Il a dit, David, quelque part, l'Éternel t'a remis entre mes mains. Il dit ça à Saül. Paul dit que quand nous prions pour les gens qui nous font du mal, cela revient à amasser des charbons ardents sur leur tête. Le jugement de Dieu est pire que tout ce que nous pouvons leur faire. Et quand Dieu intervient, cela peut mener ces personnes à la repentance. Dans un sens, tout comme Saül a été remis entre les mains de David pour que David fasse ce qu'il en veut, Dieu remet entre nos mains les personnes autour de nous qui nous font du mal pour pouvoir prier pour eux. Parce que c'est terrible de rentrer entre les mains d'un Dieu vivant. Pour que eux et nous puissions être sauvés. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? La solitude peut être difficile. Le silence de Dieu dans les injustices du monde est le sujet de beaucoup de commentaires. Les rabbins appellent ça « chetzer panim ». Chetzer panim, ça veut dire que Dieu se voile la face, se cache la face. C'est l'idée que dans le cours de l'histoire, Dieu, pour pouvoir donner libre arbitre aux êtres humains, se retire et laisse faire les choses. C'est une compréhension rabbinique qui a tiré de beaucoup de souffrances. Le peuple juif, son histoire est remplie de souffrances. Donc c'est une manière que les juifs rabbiniques ont essayé de comprendre la présence de la souffrance dans le monde, la présence du mal et pourquoi Dieu n'intervient pas. Reprise avec la question de tous les temps pour les Juifs, comment un Dieu d'amour, un Dieu aimant, permet que cela arrive? Ou comme Elie Wiesel l'a dit dans le livre Nuit, jamais je n'oublierai cette nuit, la première nuit du camp, qui a fait de ma vie une nuit longue et cette fois verrouillée. Jamais je n'oublierai cette fumée. Jamais je n'oublierai les petits visages des enfants dont j'avais vu les corps se transformer en volutes sous un azur muet. Jamais je n'oublierai ce silence nocturne qui m'a privé pour l'éternité du désir de vivre. Jamais je n'oublierai ces instants qui assassinèrent mon Dieu et mon âme, et mes rêves qui prirent le visage du désert. Nous n'avons pas le temps de rentrer dans ce sujet difficile que c'est la Shoah, mais je crois qu'il y a une parallèle intéressante dans la vie de Job, qui, pour le lecteur biblique, représente la souffrance par excellence personnifiée dans une vie. Après des événements horribles qui ont détruit sa famille, ruiné sa vie, et ont presque mis fin à ses jours, Job demande à Dieu pourquoi. Dieu ne répond pas à cette question. Dieu répond en rappelant à Job à qui il s'adresse. dans la douleur de Job, l'identité et la présence de Dieu apportent une perspective différente. Alors Job dit ceci, « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins ?» Oui, j'ai parlé sans les comprendre. J'ai un ami au Canada qui a eu un bébé trisomique. Il se souvient la première fois qu'il est allé à l'hôpital pour voir Il se souvient la première fois, ce jour-là, où plein de gens de ses amis, sa communauté, son église sont venus pour l'entourer. Certains ont dit des choses de consolation, d'autres, ne sachant pas dire, auraient dû mieux se taire et ont dit des choses un peu comme ça peut arriver, n'importe quoi. Et il se souvient qu'à un moment, il était là devant la pépinière, voyant le bébé, l'infirmière qui vérifiait que tout allait bien, et il pleurait. Il pleurait. Et un ami pasteur est venu à côté de lui, sans dire un mot, et lui a tenu la main. Je ne sais pas si vous savez ça, mais les hommes entre nous, on ne se tient pas la main. Mais c'était un geste inattendu, et il pense que peut-être que ça a duré 10 minutes, mais pour lui, le temps n'a plus existé. Il a été consolé comme aucune parole ne pouvait le consoler par la présence de cet ami. Est-ce qu'on vous a déjà vraiment écouté? Mais vraiment écouté. Quand votre interlocuteur n'a pas son téléphone à regarder, quand vous parlez, vous êtes la seule personne importante dans ce moment. Quand quelqu'un vous écoute, il y a silence. Et ce silence, dans des moments de souffrance, est inestimable. Dans le silence de Dieu, ce genre de relation inestimable, sans valeur, avec une valeur inestimable, Dieu est en train de dire tout ce que tu veux me dire dans ce moment de prière, dans ce moment de souffrance, est plus important à moi que tout ce que je peux te dire en retour. Et dans sa présence et son identité, on peut trouver ce que Job a certainement entendu, tu es précieux à mes yeux. Si tu étais la seule personne dans l'univers, je viendrais quand même sur terre mourir pour tes péchés. Dans le verset 4, le psalmiste fait une requête. Regarde, réponds-moi, éternel mon Dieu, donne à mes yeux clarté afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. La requête est regarde. Ou dans d'autres versions, prends-moi en considération. C'est important d'avoir la perspective de Dieu. Dieu a un plan pour vous. C'est clair comme l'eau de roche. Non, ce n'est pas un plan dépourvu de toute souffrance. Ce n'est pas un plan qui dépend de notre façon de vivre une vie parfaitement pieuse. C'est un plan où nous avons une relation personnelle avec un Dieu en reconnaissant qui nous sommes et qui Dieu est. Jérémie dira ceci pour nous tous. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai, vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. » Le psaume fini conclut avec un changement radical. Presque brutal. Ve'ani bechasdecha v'tachti yagel libi b'yishuatecha. Moi, j'ai de la confiance en ta bonté. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel car il m'a fait du bien. D'où vient cette transformation qui a commencé avec Où es-tu, Seigneur? Et fini en chant. Que s'est-il passé? Le mot clé pour comprendre ce qui s'est passé, c'est le mot salut. On a déjà vu ce qui s'est passé, ce que veut dire ce mot en hébreu, n'est-ce pas? Que veut dire? Yeshua. Salut veut dire Jésus. Il y a un moment dans le prophète Ésaïe qui dit, comme un célèbre personnage juif, Tevia le vendeur de lait, « Seigneur, je sais que nous sommes ton peuple élu. » Mais on souffre tellement, ce serait bien que peut-être tu peux choisir un autre peuple pendant un moment pour nous donner un peu de répit. Mais Ésaïe le dira ainsi, il a dit, Seigneur, tu sais, Je sais que tu es Dieu et nous sommes ton peuple et tout ça, mais tu ne sais pas ce que c'est vraiment que de marcher dans nos pompes, dans nos baskets. » Et il dit ceci à Esaïe, « Oh, si tu déchirais les cieux et tu descendais sur terre. » Et ensuite, il se reprend. Il dit, « Mais qu'ai-je dit ? Ah non, Seigneur, surtout pas, ne faites pas ça. Si tu fais ça, les montagnes s'ébranleront, les mers bouillonneraient. Ce serait un cataclysme sur terre. » C'est une vision de la sainteté, de la puissance de Dieu qui arrive sur terre, tel Mont Sinaï. Esaïe ne pouvait pas comprendre ce que ce psalmiste comprend, que oui, Dieu est descendu, oui, Dieu a déchiré les cieux, mais non pas en cataclysme et en pouvoir et en puissance, mais dans la forme la plus vulnérable, dans la forme la plus aimable. Il n'y a rien de plus aimable qu'un bébé. Et il est venu pour partager nos souffrances. En Ésaïe 53, c'est écrit, « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a apportées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il est blessé par nos péchés, brisé par nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé et il n'a point ouvert la bouche, il n'a pas kvetché, il ne s'est pas plaint pour que nous on puisse venir à lui dans la prière pour se plaindre à Dieu. Il a dit sur la croix, « Seigneur, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ce moment était un moment très difficile pour les disciples. Des fois, ce qui est pire que de souffrir soi-même, c'est de voir souffrir des personnes qu'on aime, n'est-ce pas? Et tout d'un coup, ils ont vu leur rabbin, leur frère, leur maître, leur meilleur ami subir des souffrances horribles. Et ce matin glorieux de résurrection, ils étaient tous cachés, pensant peut-être, est-ce nous les prochains? Et tout d'un coup, incroyablement, c'est le mot à le dire, incroyablement, glorieusement, dans une pièce à huis clos, comme Sartre, Jésus se matérialise au milieu de la pièce. Incroyable. Et il a ce corps glorifié. Il est glorieusement ressuscité, mais un corps qui défie les lois naturelles. À un moment, à 5 minutes plus tard, il peut être à 40 kilomètres au nord en Galilée. Il peut sortir et rentrer d'une pièce fermée à huis clos. Dans ce corps glorifié, ce qui est intéressant, c'est que Jésus a gardé les plaies, les trous dans ses mains et ses pieds, la cicatrice dans son côté, et il demande aux disciples de le toucher. Voyez-vous que ces trous, ces meurtrissures représentaient plus que la souffrance de Jésus, représentaient la souffrance des disciples. Et dans cette résurrection glorieuse, ce dimanche de résurrection, les souffrances ont été retournées en joie. Et ces marques des souffrances sont devenues une source de joie pour des millions à travers le cours de l'histoire, dont nous ce matin. Ces marques de souffrance sont retournées en joie à la lumière de sa résurrection. Et si nous amenons nos souffrances à Dieu dans la prière, tout comme la croix, qui est un symbole de souffrance par excellence, devient aujourd'hui un symbole de joie et d'identité chrétienne, le Seigneur promet de transformer nos souffrances, les absorber dans sa gloire pour qu'on puisse les comprendre dans le plan de Dieu pour nos vies. Comme Joseph a dit à ses frères, voyant tout ce qui s'est passé dans sa vie et le salut qui s'était opéré, vous aviez médité à me faire du mal, mais Dieu l'a retourné en bien pour sauver un peuple nombreux. Prions. Elohe Abraham, Isaac et Jacob, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, je te remercie pour ces psaumes qui nous invitent à plus d'intimité avec toi. Seigneur, nous te remercions pour Yeshua, ce chant d'amour de Dieu qui transforme nos vies, le pardonne de nos péchés et retourne nos souffrances en bien, si seulement on te les donne. Seigneur, je prie que mes frères et sœurs ici puissent se donner à toi entièrement, de tout cœur, et vivre pleinement le pardon, la réconciliation et la résurrection. Au nom de Jésus. Amen.